Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Nul ne sait ce que peut un corps.
Bien, nous, on va trouver ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Spinoza, de John Cage, de contrebasse préparée, de Saint-Augustin, de musique électronique et même de moula quiche. Avec Denis Guénoun qui met en scène Au corps prochain sur une pensée de Spinoza, du théâtre chorégraphié pour une pièce qui fait de la déclaration le dernier acte théâtral, Manu Farine.
Nul ne sait ce que peut un corps ou comment une pensée de Spinoza peut révéler physiquement le théâtre et comment les questions philosophiques peuvent à leur tour devenir des questions de plateau.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, c'est Lutz Forster, figure emblématique de la compagnie de Pina Bausch qui est actuellement à Paris. 19h35, plateau tuning instrumental avec le cabaret contemporain pour Kraftwerk, je ne sais jamais le dire, l'homme-machine, un hommage acoustique aux pionniers de l'électro des années 70. Zoé Sfès, oui, la Zoé Sfès du Journal de la Culture. Quel tour de passe-passe ?
Portrait d'un groupe d'aventuriers du son qui, après John Cage, Terry Riley, s'attend donc à Kraftwerk et mettre de l'électro avec des instruments, des voix et même des pinces à linge.
Et des moules à quiche. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le premier journal de la culture d'Adrien Nazelli qui s'ouvre, bien entendu, sur le son du jour.
Lorsque j'ai parlé de pseudo-intellectuel, je visais ceux qui commentaient la réforme du collège sans l'avoir lu, en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas, à savoir la suppression du latin, la suppression de l'allemand. Je visais ce faisant Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, je refuse qu'on laisse croire que ce faisant je m'en suis prise à d'autres intellectuels qui font leur travail. Je pense en particulier à Pierre Nora. Il a en effet une légitimité pour parler, il est allé voir ce que disaient ses programmes et il apporte un éclairage qui est utile, et d'ailleurs je lui ai proposé, comme à d'autres historiens, de les recevoir la semaine prochaine pour travailler avec eux sur cette
mais
intention
pas totalement
des programmes
répondu.
Bonsoir Adrien Nazelli.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre premier son du jour.
Oui, et c'est un son du jour qui ne date pas d'hier, hein, puisque je voulais pas changer les bonnes habitudes de Zoé Sfès. Alors il date...
C'est exactement ça qu'il fallait changer, trouver des vrais sons du jour pour une fois.
Il date en fait de jeudi dernier, c'est sur le plateau de LCI, c'est la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qu'on entend. Elle se défend suite au tollé sur sa réforme du collège. Une pétition circule signée par plus de 200 parlementaires de droite pour qu'elle soit abandonnée. Mais hier, dans le JDD, la ministre explique que le latin va être obligatoire et qu'il y aura aussi des enseignements complémentaires pour les élèves qui le souhaitent. En résumé, selon elle, il y aura donc plus d'élèves qui font du latin qu'aujourd'hui. Mais ce qui ne passe vraiment pas, c'est qu'elle a qualifié ceux qui s'opposent à sa réforme de pseudo-intellectuels. C'était le 30 avril sur RTL et depuis... Elle a précisé qu'elle ne visait évidemment pas tous les intellectuels, mais trois personnes, vous l'avez entendu, Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner et Luc Ferry, qui l'ont, il est vrai, violemment attaqué. On notera que la ministre épargne Jean d'Ormesson, qui l'a pourtant qualifié de « terminator de charme » dans une tribune du Figaro.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Les étudiants de l'ENSIS et l'École nationale supérieure de création industrielle se mobilisent contre leur directeur qui n'aurait aucune ambition pour l'école. Il a supprimé des ateliers et donc des postes de designer cette année.
Dorian. Oui, alors l'ENSIS est une école publique. Elle a été créée en 1982 par François Mitterrand. Elle dépend donc des ministères de l'Industrie et de la Culture. C'est une des meilleures écoles de design industriel au monde. Accessible sur concours, elle met en place une pédagogie participative à laquelle les étudiants tiennent beaucoup, sauf que Bernard Kahn, le nouveau directeur depuis 2013, ne comprendrait pas ces enjeux. Il a supprimé trois ateliers et donc trois partenariats, dont un partenariat très important avec les aéroports de Paris. Des décisions que les étudiants condamnent. On écoute Youn qui étudie à l'ENSI depuis 2009, c'est sa dernière année.
On passe un petit peu pour des branquignoles, faut dire ce qu'il y a, puisque les industriels parlent entre eux. Donc on perd en image, mais on perd aussi en finance, puisque l'argent qui aurait dû être versé par les aéroports de Paris pour ce partenariat, il est perdu. La majorité des gens n'ont pas été choqués par le fond. Ok, supprimer un atelier, pourquoi pas? C'est plutôt la forme, c'est-à-dire supprimer un atelier à la dernière minute. Traiter les designers qui sont donc licenciés par-dessus la jambe. Ce qui choque les gens, c'est le mépris de la profession de designer. Après, sur l'enseignement, c'est évident que du coup, ça crée des ateliers où il y a plus de monde, où du coup, le projet pédagogique de l'école, qui est donc un projet très humain, puisque la pédagogie active, ça demande des personnes. Ça veut dire qu'on rentre dans un système d'une politique du chiffre, là où on était dans une politique de la qualité. Être incompétent, c'est pas grave. Ne pas le reconnaître, c'est là que c'est plus dangereux. C'est-à-dire que c'est tout normal de ne pas se savoir tout faire. Bernard Cannet est arrivé ici, il ne connaissait pas le design.
Les étudiants et une grande partie du personnel réclament que Bernard Cannet soit mis sous tutelle jusqu'à la fin de son mandat, mais aussi que les ministères modifient les statuts de l'école.
Oui, c'est pourquoi ils ont rédigé une motion de défiance envoyée aux tutelles, tutelles qui n'ont pas accusé réception. Les étudiants avaient envisagé de se mettre en grève, mais ils ont choisi de rester dans une démarche constructive, m'ont-ils dit, pour proposer un programme pédagogique adapté. La situation est bloquée. De son côté, le directeur insiste uniquement sur les difficultés budgétaires liées aux subventions des tutelles.
Ces subventions, elles sont restées stables. Elles n'ont pas baissé. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'école, elle, a considérablement développé son activité. Et donc, l'école s'est retrouvée dans une situation où elle faisait de plus en plus de choses, mais avec une subvention qui n'avait pas augmenté en parallèle. Moi, j'ai pris note de cette motion de défiance, et donc j'arrive un petit peu en disant, attendez, on a voulu faire toutes ces choses-là, c'est très bien, mais regardez, on ne peut pas porter toutes ces choses-là. Donc il va falloir faire des choix. Et quand on exprime ces choix-là, c'est pas agréable. Alors on pourrait dire, l'école ne fait plus ses choix de développement à l'extérieur, mais c'est pas vers ça que nous porte l'avenir. L'avenir, elle nous porte vers le fait de parler à l'extérieur et d'être en contact avec l'extérieur.
Les partenariats inquiètent aussi beaucoup les étudiants.
Oui, car selon eux, la direction privilégierait plus l'aspect économique au détriment de la pédagogie aujourd'hui, ce qui a pourtant longtemps été la spécificité de l'école, créer de véritables penseurs du design. Parmi les anciens élèves, on compte notamment les designers Robert Stadler, Patrick Join ou encore Nathalie Crasset, qui m'a expliqué qu'il était impératif de maintenir le niveau.
Il faut arriver aujourd'hui à le faire, voyez, dans un contexte où il y a de plus en plus de partenaires extérieurs et dans un contexte où, en quelque sorte aussi, on a un peu moins envie de prendre des risques. On a envie d'être dans des études qui sont plus opérationnelles, voyez, et qui vont nous permettre de trouver peut-être du boulot à la fin du cursus. Être professionnel, être opérationnel, c'est une chose, mais après, amener quelque chose de personnel dans un projet, c'est autre chose, en fait. Et ça, c'était vraiment la force de l'école, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de designers qui sortent des écoles et qui sont formés un peu partout en Europe, et même maintenant en Chine, en Corée, etc. Donc, il est essentiel pour les designers que cette approche soit identifiée et forte.
Oui, c'est exactement le souhait des étudiants qui vont publier dans les prochains jours une lettre d'embauche idéale de leur futur directeur. Une situation qui n'est pas sans évoquer les problèmes dans de nombreuses autres écoles, comme l'école spéciale d'architecture dont nous parlait Zoé Sfez il y a 2 semaines, ou encore l'école nationale supérieure des beaux-arts de Paris.
Merci Adrien, et bien on passe tout de suite au bref.
Et l'on ouvre avec le 12e palmarès des musées à Paris. Le musée du Quai Branly prend la première place, le centre Pompidou descend quant à lui à la 3e. Et du côté des villes moyennes, ce sont les musées d'Angers qui perdent leur place de leader au profit de La Piscine, le musée d'art et d'industrie de Roubaix.
100 000 personnes à l'opéra ce week-end.
Oui, carton plein pour la 9e édition de l'opération Tous à l'opéra, qui a pour but de décomplexer les publics les moins touchés par le genre. Opération séduction réussie, puisque cette année les organisateurs avaient même rendu l'événement plus festif avec par exemple une grande flash mob organisée place de la Comédie à Lyon sur de la musique flamenco en honneur de Carmen.
Ça s'appelait Banou Farine. François Hollande inaugure le mémorial Act en Guadeloupe.
Oui, le président qui fait le tour des Antilles, il passait par la Martinique, par la Guadeloupe, par Cuba aujourd'hui et demain Haïti, a inauguré à Pointe-à-Pitre le musée dédié à l'histoire de l'esclavage, mais ce n'est pas tout à fait un musée, a-t-il dit, c'est plus un espace d'échange et de création.
Et la dernière ?
La dernière, c'est une histoire de stars du porno japonais, de panda ou encore de tigre du Bengale.
Voilà, vous êtes le fils spirituel de Zoé Sfez.
C'est ma mère spirituelle. L'acteur Shimiken, alors peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est l'un des hardeurs plus connus. C'est l'un des hardeurs les plus connus au Japon. Il vient de lancer une alerte sur Twitter. Il est vraiment paniqué puisqu'il affirme, en fait, non sans humour, que les acteurs porno japonais sont moins nombreux que les tigres du Bengale à l'état sauvage ou que les pandas. Vous savez qu'ils sont très très peu. En fait, il y a 70 hommes hardeurs pour 10 000 hardeuses au Japon. Wow. Ce qui fait qu'ils sont complètement épuisés à raison de 3 ou 4 films par jour. Et là où ça devient moins drôle, c'est quand Shimiken et ses amis du porno japonais essayent un peu à la manière d'un Éric Zemmour en France de trouver une explication sociologique. En fait, ils disent que la perte de virilité des garçons japonais, c'est parce que cette nouvelle génération est moins macho et plus indifférente en fait à la réussite professionnelle. Ils les appellent d'ailleurs les herbivores. En fait, ils n'ont plus faim, ils veulent plus de chair fraîche. Du coup, c'est les herbivores. Ça, c'est ce qu'a dit un vieux routier de l'industrie du porno japonais. Alors, c'est sûr qu'avec ces 2 ou 3 films tournés par jour, ce n'est pas Shimiken, en tout cas, qui se repose sur ses lauriers.
Eh bien, merci. Zoé, un petit commentaire.
C'était parfait, c'était dans la droite ligne
de tout ce que vous avez initié depuis un an.
C'est l'essentiel.
Est-ce qu'il y a des commentaires à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Denis Guénoun? Non.
Non, non, pas sur le journal de la culture. On aurait tout est sous l'ombre portée par la première nouvelle du journal, c'est-à-dire ces centaines, ces milliers de gens qui meurent à nos portes presque quotidiennement ou quotidiennement pour fuir les lieux où ils sont et rejoindre les nôtres. C'est sans arrêt, c'est tous les jours et il semble que c'est difficile d'entendre ou d'avoir envie de réagir à autre chose qu'à ça.
Peut-être le cabaret contemporain, en tout cas ses membres, auraient envie de réagir sur autre chose? Non. Personne ne connaît Chimicaine, hein, manifestement.
Chimicaine.
Chimicaine, ah oui, Chimicaine. Allez, on commence.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Spinoza avec vous, Denis Guénoun. Et oui, ça nous change. Hein. Metteur en scène, comédien, auteur, essayiste, professeur de littérature française et de théâtre, auteur d'une foultitude d'œuvres théâtrales et d'essais philosophiques. C'est tout cela que vous mettez à l'œuvre en signant au Théâtre National de Chaillot à Paris, Au corps prochain, sur une pensée de Spinoza. Avant de regarder hein, ce que Spinoza permet de dire du théâtre, une question sur votre propre parcours. Quelle place y tient l'éthique de Spinoza ?
Et une place tout à fait mineure. C'est un livre que j'ai lu, alors là, pour la troisième fois, pour faire ce spectacle-là. La première fois, je l'ai lu en entier, je n'y ai strictement rien compris. C'est-à-dire de la première ligne à la dernière. C'est-à-dire, je comprenais les mots, les énoncés, mais je ne comprenais pas quelle était la question. De quoi il s'agissait, si vous voulez, en gros. La deuxième fois, un peu plus récemment, quand le projet commençait à naître, il y avait des petits bouts d'entrée, des petites failles. Et puis la troisième fois, il m'a semblé voir des passages s'éclairer. Mais ce n'est pas du tout une œuvre centrale dans mon histoire philosophique. Si, comme l'a dit un jour Pierre Macheret, il fallait se déterminer entre Hegel et Spinoza, moi j'étais plutôt dans la tradition hegelienne, dans la tradition idéaliste.
Alors pourquoi fallait-il convoquer Spinoza pour cette pièce?
C'est la faute de Gilles Deleuze, demandez-lui.
Il a énormément d'ailleurs commenté.
Il a énormément commenté cette phrase. Alors en revanche, j'ai beaucoup lu Gilles Deleuze et je me suis beaucoup, comme beaucoup d'autres, hein, c'est très banal aujourd'hui, j'ai été très marqué par cette réflexion là, et c'est vrai qu'il
cette
ne cesse...
Cette réflexion qui est ?
Alors, la réflexion de Deleuze sur Spinoza, qui en particulier se concentre autour de cette phrase « Nul ne sait ce que peut un corps ». Deleuze a beaucoup fait pour la rendre fameuse, et il a beaucoup commenté Spinoza, mais en particulier, il tourne autour de cet énoncé, il y revient, il en fait le centre de plusieurs de ses méditations, et... Je me demandais vraiment pourquoi et comment ça le fascinait à ce point, disons.
Et pourquoi alors ?
Eh bien, il me semble peu à peu entrevoir ceci, que pour Deleuze, on devrait savoir ce que peut un corps. Au fond, il y a des lois de la physique, il y a des règles ou des lois biologiques. Donc, au fond, ce dont un corps est capable, c'est une chose qui paraît assez déterminée. Et que Spinoza dise qu'on ne le sait pas, que personne ne l'a encore vraiment déterminé. C'est-à-dire, la nature de cette surprise, c'est à la fois une énigme, et en même temps, ça rejoint un sentiment qui est un sentiment très commun, très partagé, que les corps, des corps, même dans leur existence ordinaire, sont pour nous une très profonde surprise. Voilà, c'est pour ça, je crois, que je suis allé
de ce côté-là.
Dialoguer avec ça.
Manu Farine.
Alors, au centre de la scène à Chaillot, un carré bordé d'asphalte, quelques accessoires sur le plateau, un immense écran qui passe de l'avant au fond de la scène, et puis cinq comédiens, un caméraman, on y reviendra. La pièce s'articule en cinq parties, se lever, se laver, fuir, fêter, enfin déclarer. C'est là que les acteurs vont prendre la parole. Et ce sont donc en fait cinq pensées ou principes empruntés à Spinoza, avec d'abord, en tout premier lieu, un prologue. En allemand, dans le texte. Ce prologue, c'est un texte de Nietzsche, enfin en tout cas une carte postale qu'il adresse en 1881 à son ami Overbeck, alors qu'il vient de lire Spinoza, et où Nietzsche dit avoir trouvé en Spinoza un précurseur, avec un point d'exclamation. Pourquoi fallait-il cette médiation-là, c'est-à-dire ouvrir par Nietzsche pour amener Spinoza sur le plateau?
Je ne pense pas qu'il le fallait, mais c'était une sorte de fausse piste, doublement. D'abord, il y avait un petit clin d'œil. Les gens viennent voir un spectacle qui va s'avérer en vérité, en grande partie muet, sans texte. Non seulement on leur assène un texte d'emblée, mais il est en allemand. On joue même un peu avec le retard des sous-titres pour que les gens pensent au moins quelques secondes que
ça va être
vont
atroce.
Vraiment rien comprendre. Et voilà, donc ça c'était un private joke, si vous voulez, une blague en quelque sorte.
Mais pas vraiment, véritablement, qu'est-ce que vous voulez mettre en place par quelque chose qui peut effrayer en effet le spectateur dès le départ?
En vérité, ça ne l'est pas, oui. Alors il y a aussi peu à peu quelque chose qui s'est installé, c'est comme une espèce d'amitié, de compagnonnage, le fait que Nietzsche dont beaucoup d'entre nous sont plus immédiatement proches que de Spinoza. Si vous voulez, il y a une espèce de chaleur chez Nietzsche, et puis une violence, une véhémence. Enfin, il y a une humanité chez Nietzsche qu'on rencontre, une poésie directe qu'il n'y a pas chez Spinoza. Spinoza est un auteur qui est quand même froid à la lecture. Nietzsche, pas du tout. Donc, il y avait cette espèce de parenté, de compagnonnage. Il y avait aussi un petit clin d'œil à nos spectacles précédents, qui sont des spectacles fondés sur le texte, sur l'adresse, sur voilà, alors que celui-ci semble ne pas l'être du tout. Et puis, il y avait cette impression qu'un homme comme Nietzsche, qui ignorait tout de Spinoza, le jour où il lit Spinoza, il a l'impression qu'il n'est plus seul, ou en tout cas que sa solitude est partagée. Et il le dit avec une extrême émotion. Il dit qu'au fond, sa solitude lui coupe le souffle, qu'il n'arrive presque plus à respirer, et que depuis qu'il a lu ça, il s'exclame dans cette carte postale à son ami, qu'il a l'impression que cette solitude est ou rompue ou partagée. Ça nous a paru un événement comme ça de départ assez frappant.
À quoi correspond cette pièce dans votre propre parcours ? Vous dites que justement, auparavant, les pièces étaient plutôt des adresses, des textes forts, des textes philosophiques aussi, même si vous avez commencé par des classiques hein, comme Shakespeare, alors que là, on est face à une pièce, au départ, on va dire, plutôt chorégraphiée, avant qu'au dernier acte, la parole advienne. À quoi ça correspond dans votre parcours aujourd'hui, Denis Guénoun ?
Ça a correspondu au désir de faire un spectacle, de se demander comment on fait un spectacle sur une pensée. Une pensée, non pas la pensée de Spinoza, ce qui serait d'une prétention évidemment folle, mais sur une pensée. Comment une pensée, disons un énoncé, une phrase, et peut-être même moins que ça, une espèce de une concentration, une question, comment ça devient un problème de théâtre, un problème scénique concret ? Alors c'est vrai que si on avait répondu à cette question en commençant par développer, comme on aime le faire, hein, des textes, philosophiques ou non, de comédiens s'adressant à la salle pour leur expliquer quelque chose ou pour leur partager quelque chose avec eux, on aurait eu l'impression de moins relever ce défi. Et puis il y a une autre raison qui est évidemment patente, c'est qu'il s'agit des corps. Et que les corps, même si en effet ils parlent, comme nous faisons, comme ce soir, la première donnée de la corporalité, ça semble pas être la parole. Je dirais même que pour retrouver l'événement physique de la parole, en quoi la parole est un événement physique, il fallait attendre un peu, il fallait sursoir, rester un temps avec les corps dans leur activité silencieuse. Donc
l'événement en fait qu'on théâtrale, c'est l'accès à la parole au dernier acte.
Ah, j'en suis pas sûr. Si vous le pensez, ça veut dire qu'il n'y a pas de théâtre pendant 50 minutes, ce qui est grave.
Pas du tout, il y a un coup de théâtre à un moment donné.
Voilà, d'accord. Oui, il y a ce coup de théâtre-là, en effet, j'espère.
Manu.
Vous doublez, Denis Guénoun, littéralement la scène avec un dispositif de projection en live, hein, en direct, avec sur scène un caméraman qui suit, qui cadre les corps au plus près, qui les détaille même, hein, qui les suit. Que prend en charge cet effet, justement, de doublement, de redoublement ?
Alors, si vous me permettez de dire à la fois comment on a travaillé, et peut-être de déplacer un peu la façon dont vous le formulez, ce qu'on a cherché, c'est justement jamais doubler. Alors, j'espère qu'on y est un peu arrivé. Je vous donne des exemples.
Oui, c'est cadré, effectivement. Voilà, donc, ça ne double pas ce qui se passe sur scène.
Voilà, c'est ça. Lorsque, par exemple, les corps sont en scène, par exemple, je prends le cas de la deuxième scène où il y a une... où les gens
se lavent.
Voilà, les gens se lavent, donc il y a une présence physique. On ne les filme jamais. C'est-à-dire, on a pendant tout le temps, et c'était une espèce de, c'est un combat, je dirais, c'est une espèce de rigueur. On a tout le temps essayé de faire que la caméra ne montre que quelque chose que le théâtre ne montrait pas, ne pouvait pas montrer. Mais en profondeur, pas seulement lorsqu'on voit un acteur de face, et bien le montrer de profil ou de dos.
Bon, d'accord,
ça, c'est évidemment. Non, mais plus profondément, que la caméra assume quelque chose du visible et du narratif que la scène ne prenait pas en charge à ce moment-là. Alors par exemple, pour revenir sur la scène du bain, puisqu'on était sûr d'emblée qu'il ne fallait pas filmer les corps, et qu'on voulait que la caméra ne s'arrête jamais de filmer, c'était un des partis pris, hein, en continu
pendant toute
la pièce. Donc on filme quelque chose, qui sont les vêtements, par exemple, que les corps abandonnent, les vêtements qu'ils jettent. Alors c'est à la fois une référence au célèbre slip de Pasolini dans Théorème, même si là c'est pas un slip, mais enfin il y a quand même une braguette. C'est aussi une référence à Cézanne, un peu plus discrètement, qui de façon surprenante, chaque fois qu'il peint des pommes ou des flacons, eh bien il met énormément de tissu à côté, un tissu qui pend, comme si la matérialité du tissu, il en avait besoin pour faire écho. Alors voilà, là on cherche à filmer autre chose. Je pense que le cas est très rare où on filme véritablement ce qu'on voit ou ce qu'on pourrait voir. Et c'est en effet plutôt le cas de la dernière partie, lorsqu'on parle.
Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vous voyais me sourire pendant que la prise de parole de Denis Guénoun.
Non, j'écoute concentré. Y a pas...
Vous-même, vous avez travaillé avec des danseurs, d'ailleurs, dans le cadre de cabaret contemporain.
Il y a toujours un bal qui tourne, là, qu'on fait à Bellac le samedi prochain, le 16 mai. L'idée est de travailler avec des danseurs amateurs qui apprennent en amont à danser sur la musique du cabaret et qui, le jour du concert, est dans le public sans que le public soit au courant pour, par un effet de contagion de la danse, entraîner tout le monde à danser.
Laurent Jacquet, je l'avais pas présenté quand il a pris la parole. Ce qui est intéressant aussi dans cette prise de parole, c'est qu'à un moment donné, le public va aussi prendre la parole, puisqu'à l'issue de chaque représentation à Chaillot, vous organisez une rencontre avec le public. C'était encore le cas quand on y était avec Manou le 8 mai dernier. Est-ce qu'il y a eu jusqu'ici des questions récurrentes? Qu'est-ce qu'on vous demande en fait, Denis Guénouna?
Je précise, décidément, je ne cesse de déplacer les questions que vous me posez, c'est pas par mauvais esprit, j'espère. Je précise qu'en fait, l'objet de cette conversation, c'est pas que les gens nous posent des questions auxquelles on aurait à répondre. On veut plutôt les entendre, on veut plutôt les écouter. Alors,
que voilà. Vous disent-ils?
Voilà, c'est vrai qu'ils, c'est très différent d'un soir à l'autre, mais c'est aussi terriblement différent d'un spectateur à l'autre et extraordinairement riche. Alors d'abord ils s'engueulent entre eux, par exemple le 8 mai, je ne sais pas si vous étiez là, mais ils sont vraiment... Il y avait ceux qui pensaient par exemple que la caméra était complètement inutile et que ça gênait, que ce qu'on voulait c'était voir les corps, et il y avait ceux qui pensaient qu'au fond non, la caméra donnait à voir la présence et que c'était grâce à la caméra que la présence... Alors vous savez, c'est une impression très forte de voir les spectateurs in vivo entre eux, sans que nous soyons là ni les arbitres ni les dirigeants à la manœuvre, puissent échanger des points de vue. Il est vrai que bon, nous on trouve que le public est en général trop confiné au silence, hein, et que
qu'est-ce que vous espérez, vous
voulez les entendre, ce sont des corps aussi,
ils les sont entendre là, pendant la pièce.
Bah, pas encore, pas pour l'instant, mais au moins pendant la durée de la représentation, puisque, voilà, pardon. Il me semble que, à la différence d'autres époques, et il faut sans doute chercher d'autres moyens, le public est, aujourd'hui, enfin les publics, on leur demande beaucoup d'approuver ou de désapprouver, et puis c'est presque tout. Enfin, c'est vraiment, à nos yeux, pas assez. Pardon. Ces voix nous manquent. Les voix des gens, vous savez, c'est une expérience qui consiste à être devant des gens pendant 1h10 et à essayer de leur adresser pour le coup quelque chose, que ce soit une parole ou des mouvements ou des gestes. Et on trouve qu'à sens unique, ça ne va pas. Pour nous, c'est un très grand moment. Ça nous aide à travailler pour la suite. Ça nous aide énormément, puisqu'on continue à travailler tous les jours. Ça nous aide énormément à continuer à élaborer le spectacle.
Pendant Courtier, vous disiez oui, vous acquiesciez.
Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui me parle, comme beaucoup de choses qui ont été évoquées. Hein, la surprise, par exemple, que les acteurs se mettent à jouer, enfin à parler. Enfin, c'est des choses avec lesquelles on aime jouer, nous, puisque quelque part le public assiste à une conversation en musique, puisqu'on improvise énormément. Et on aime bien leur laisser le choix, c'est-à-dire... Leur laisser le choix... C'est-à-dire que je pense qu'on fait pas une musique qui est aliénante ou qui va dans une seule direction. Il y a toujours plusieurs strates à écouter. Il peut y avoir des choses qui s'étirent très lentement, qui sont très statiques. D'autres choses qui vont exprimer une jubilation beaucoup plus marquée sur la pulsation. Et je trouve ça aussi intéressant parce que les gens qui viennent nous voir à la fin souvent n'osent pas trop parler parce qu'ils pensent que ils ne sont pas qualifiés pour ça, alors que leur avis est bien plus intéressant que les gens qui sont qualifiés pour ça.
On en parlera tout à l'heure. Manou.
Denis Guénouna, avant Spinoza, il y avait déjà eu Platon, un extrait des Confessions de Saint-Augustin que vous avez mené à l'épreuve du théâtre. En quoi, comme vous le dites, en tout cas comme j'ai pu le lire, la scène serait le lieu de l'épreuve philosophique entre toutes?
Ben, en ceci que le problème de l'épreuve philosophique, c'est de s'exposer, c'est de s'ouvrir. C'est-à-dire, si la pensée se contentait de son propre exercice, vraiment en ne s'adressant qu'à elle-même et en se fermant sur elle-même, elle n'aurait sans doute pas lieu. Et l'acte de penser, c'est dire, c'est ouvrir. Donc la scène est un lieu qui appelle à cela avec une intransigeance, par moments, avec une violence, avec une dureté particulière, parce que c'est vrai que quand on est en scène... si ce qu'on dit, on ne fait que si on le sait et qu'on le dit pour en convaincre les autres, ben c'est tout de suite très plat. ça n'a d'intérêt que si ce qu'on dit, on ne le sait pas tout à fait. C'est-à-dire si ce qu'on dit, c'est un événement qui vous arrive, comme vous le disiez tout à l'heure, Laurent. C'est-à-dire si quelque chose vous traverse, qui vous secoue, qui vous modifie et qui vous interroge. C'est au fond ça qu'on travaille. On appelle ça entre nous le théorème de Roquette, parce que c'est Stanislas Roquette, le comédien, qui l'a formulé sous dans ces mots. C'est-à-dire, si un énoncé de pensée est seulement transmis à partir d'un point de vue où on est censé le connaître, il n'y a pas de théâtre. C'est sûr qu'il n'y a pas de théâtre. Pour qu'il y ait théâtre, il faut que l'événement arrive à ceux qui le disent.
Alors ça peut peut-être expliquer votre parcours, puisque vous alternez entre plateau et université, éducation nationale et centre dramatique national, avec de longues périodes d'interruption de l'un ou de l'autre. Par exemple, en 90, alors que vous avez tenu pendant 4 ans le CDN, le centre dramatique national de Reims, vous vous retirez de l'institution et abandonnez l'activité théâtrale professionnelle pour la philosophie. Qu'est-ce qui ne suffisait plus à ce moment-là, pour vous, Denis Guénoun?
Ça c'est une longue histoire. Disons que sur le moment je ne le savais pas, c'était très instinctif. Sur le moment j'avais décidé je voulais respirer, je ne respirais plus. J'avais une position très enviable à tous égards.
Ah, directeur d'un centre dramatique national.
Oui, oui, matériellement, symboliquement, enviable, enfin bon, voilà, durable, tout ce qu'on voulait. Et puis je ne respirais plus. Alors je ne savais pas trop pourquoi, j'avais envie de respirer. De croiser d'autres gens dans une position qui ne soit pas hiérarchique, qui ne soit pas une position d'autorité, d'être un peu plus à l'écoute des uns et des autres. Puis je trouve aussi que j'avais, en exerçant ces fonctions, disons, de responsabilité, voire d'autorité, j'avais un peu cessé de penser. Et je le sentais. Je sentais que ça ne pensait plus. Je me demandais même à l'époque s'il n'y avait pas une espèce de loi. Plus on était élevé dans une hiérarchie, moins on pensait. Hein. J'ai l'impression que c'était une espèce de théorème, qu'on aurait pu formuler ça aussi.
Le théorème de Denis Guénoun.
Voilà, si vous voulez. Et donc, voilà, j'ai eu besoin de... Bon, aussi, le monde avait changé. La politique était en train de changer, de se bouleverser. On vivait dans une bulle. On était entre privilégiés de la culture. Et ça m'était devenu tout à fait insupportable. Donc voilà, j'ai décidé de rompre.
À nous.
Comme à tous nos invités, Denis Guénoun, cette saison, vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué et vous avez suggéré ceci. À peu près.
Alors, c'est pas tout à fait ça, là encore.
Mais ça, vous allez préciser.
Mais vous allez préciser.
Oui, je vais vous préciser. Non,
Qu'on devait entendre?
Oui, c'est difficile à entendre. Ce qu'on aurait dû entendre est presque un peu inaudible. C'est, quand j'avais 15 ans, il y a une bombe qui a explosé devant la porte de la maison. Mon père était un militant favorable à l'indépendance algérienne et c'était difficile à l'époque à assumer. Et donc, la maison a explosé. On était dedans. Et c'est-à-dire moi-même, ma maman, mon papa, voilà, tout s'est effondré. Et le bruit de cette, c'était une charge de TNT, hein, le bruit de cette explosion était d'une incroyable gravité. C'est-à-dire que c'était un son, je crois n'avoir jamais entendu depuis un son aussi grave. Pas gravité au sens pathétique,
non,
moral,
bien sûr,
hein,
ouais.
Gravité au sens acoustique. C'est-à-dire je n'ai pas de souvenir d'avoir entendu quelque chose qui aille à ce point dans les basses.
Voilà.
Alors, c'était beaucoup plus qu'une violence, c'était extrêmement violent. Alors ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Et puis après ça, une fraction de seconde, il y a eu des sons très aigus. Et c'était les plafonds qui, si vous voulez, les plafonds qui tombaient. C'est-à-dire, c'était les peintures, ou je sais pas, les plâtres. Voilà. Je pense que c'était les plâtres des plafonds qui tombaient, qui s'égrenaient comme ça. Voilà. C'est vrai que ce son, cette explosion, cet arrachement à mon enfance, à l'Algérie, à une époque, a été sans doute ce qui a lancé toute une expérience de vie qui s'est trouvée être la mienne, comme celle de d'autres, au même moment, dans des conditions semblables ou inverses. Mais enfin, la violence était sans doute comparable.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur. Extérieur.
Denis Guénoun et le cabaret contemporain, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine, ce soir dans la série Les professionnels de la profession. C'est le danseur Lutz Förster, figure emblématique de la compagnie de Pina Bausch, que vous avez rencontré dimanche, Manu.
Lutz Förster, danseur, pédagogue allemand et aujourd'hui directeur artistique du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, qu'il a rejoint il y a maintenant plus de 34 ans, donc il y a évidemment dansé tout le répertoire, ou presque. On se souvient en particulier, en tout cas pour ceux qui ont eu la chance de le voir, d'une séquence iconique dans la pièce Nelken, créée en 1982, celle où il interprète The Man I Love de Gershwin en langage des signes. Et je l'ai rencontré hier en pleine répétition de Nelken, justement, qui se remonte à partir de mardi au Théâtre du Châtelet avec le Théâtre de la Ville à Paris, pour quelques représentations exceptionnelles.
Questionnaire danse, Lutz Förster, Manu Farine.
Le danseur ou le chorégraphe de votre adolescence?
La première, c'était Susanne Linke. et Reinhard Hoffmann, déjà à l'école, quand j'ai fait partie de la compagnie de l'école de Folkwang. Et déjà dans mon seconde année à l'école, Pina m'a demandé de participer dans le Sacre du Printemps. J'ai commencé à danser à 21 ans. J'ai fait de la danse de salon, de ballet, et j'ai appris, pas seulement les pas du Sacre du Printemps, j'ai appris de danser en apprenant le Sacre du Printemps. Quand elle a demandé les directeurs pour les étudiants, pour participer, et elle a dit, j'aimerais aussi le grand blanc avec le grand nez et la belle seconde position.
Premier choc comme spectateur de danse.
Un grand événement pour moi, c'est quand, dans la première année, il y avait une professeuse invitée, Betty Jones, qui fait partie de la compagnie originale de Rosie Limon, et elle a montré le film de La Pavane du Mort, la pièce plus fameuse de Rosie Limon, Othello en 20 minutes, pour 4 personnes et un mouchoir. Et j'ai vu cette pièce, spécialement le rôle d'Iago, et j'ai pensé, cette pièce est faite pour moi. C'était moi. Il n'est pas gentil. C'est un caractère ambigu, et ça m'a fasciné.
Ce que Pina Bausch vous a appris du danseur que vous êtes.
C'est une chose que j'ai vraiment appris avec Pina. C'est patience. On découvre des choses qu'on a déjà à l'intérieur. Mais une chose qui était vraiment contre ma nature, c'était la patience. Et maintenant, comme directeur artistique, je suis très heureux que j'ai appris ça avec elle.
La pièce de Pina qui vous aura donné le plus de mal, hein?
Le plus difficile, c'était Arion. C'est la pièce que toute la scène est couverte de l'eau. Et j'étais mouillé tout le temps, j'ai eu 20 costumes. Dehors de scène, c'était tellement compliqué.
Le chorégraphe ou la chorégraphe qui vous a mis en danger?
Il y a 3 chorégraphes dans ma vie, ils ont demandé beaucoup de moi. C'était Pina, c'était Meredith Monk et naturellement Bob Wilson. Tous les 3 étaient très précis, très clairs. Alors j'ai travaillé 34 ans avec Pina, j'ai travaillé avec la compagnie Limon pendant 16 ans. J'étais toujours très fidèle. Aujourd'hui, il y a une autre mentalité. Depuis 88, j'enseigne aussi à Folkwang. Et maintenant, les étudiants, ils travaillent 1 an ou 2 avec un chorégraphe et après, ils sont déjà impatients de trouver un autre. Pour moi, c'était complètement différent.
Si vous deviez raconter Nelken.
Toutes les pièces de Pina entourent toujours les mêmes questions. Les questions de vie humaine, des relations, des difficultés entre les gens, comment un être humain traite un autre, l'amour, la haine, la violence, la tendresse. Aussi, Nelken est, on peut dire, une pièce de l'amour.
Un souvenir de plateau pour Nelken.
Mais quand on a joué à Moscou, c'était encore l'Union soviétique, et il y a un moment, normalement, où les gens rient, s'amusent, et je viens au public et demande qu'il se lève. Et on fait un petit exercice qui, à la fin, est un embrassement. Et normalement, il rigole dedans. Et là, les gens ont pleuré.
Lutz Forster, merci.
Someday he'll come along, the man I love. And he'll be big and strong, the man I love.
Denis Guénoun, il a une superbe voix en plus, Lutz Forster. J'imagine que Pina Bausch, dans votre parcours, ça a aussi été une rencontre.
Ça a énormément compté. Je l'ai découverte avec retard. Et je dois avouer, pour être très franc, que les premières choses que j'ai vues, Nelken par exemple, que j'ai vu à Munich en 83, je n'ai pas tout de suite reçu sans doute tout ce qu'il y avait à recevoir. C'est très tardivement, avec vraiment la mauvaise grâce de l'après-coup, qu'on a beaucoup regardé, soit les spectacles, soit les vidéos, grâce à notre chorégraphe Christelle Calvet, qui est très nourrie de cet héritage avec quelques autres, et qui nous a fait voir, sentir et comprendre. C'est absolument central, essentiel, enfin voilà.
Et du côté du cabaret contemporain, est-ce que ça a pu fonctionner aussi comme une référence ou pas du tout, cette esthétique-là?
Je pensais théâtre. Plutôt à, parce qu'il a parlé de Meredith
Monk.
Pendant
le cri, ouais.
Et ça, forcément, il y a des points communs. Je dirais pas que c'est une influence directe, mais c'est pareil, il y a des préoccupations communes d'abolir certaines individualités et puis de la musique répétitive, la hiérarchie dans le groupe, tout le monde est... Enfin, moi, j'ai eu la chance de voir une restitution d'une résidence qu'elle avait faite. Et c'était vraiment magique. C'est simple, c'est beau et puis c'est humain.
On va en parler tout de suite.
Le rendez-vous.
Plateau tuning instrumental avec le quintet Cabaret Contemporain pour votre projet Kraftwerk. Homme-machine, c'est un hommage au duo allemand hein, qui a posé les bases de la pop synthétique et de la musique électronique dans les années 70 à Düsseldorf, avec des tubes comme Mad Men, plutôt Mad Machine. Mad Men, c'est autre chose, c'est une autre culture, c'est aussi la mienne. Mad Machine qu'on entend derrière nous, encore Home Computer ou We Are The Robots. Vous en faites-vous un hommage acoustique, c'est tout le paradoxe, puisque les cinq musiciens du cabaret contemporain utilisent des instruments traditionnels, piano, contrebasse, mais en les mettant en contact avec d'autres objets pour en changer le son d'origine. C'est ce dispositif précisément qui fait la signature du cabaret contemporain depuis sa création en 2001, puis en 2011 ça a été le groupe. Laurent Jacquier, vous en êtes le producteur et le directeur artistique. À partir de quel constat, de quelle nécessité vous avez pensé cette formation ?
Alors, déjà, je suis pas le directeur artistique du cabaret contemporain, comme le rappelait Ronan tout à l'heure.
D'accord.
Je suis producteur.
Par un D'accord. regard appuyé.
Ce qui est radicalement différent. ils sont les cinq musiciens. Justement, il n'y a pas de directeur artistique. Les cinq, plus Linda Ola, d'ailleurs, sur ce projet, faut le dire.
La chanteuse,
qui chantera tout à l'heure. Donc, assure la direction artistique. Moi, je suis vraiment le producteur.
Mais vous êtes à l'origine quand même de ce projet, que j'ai comme l'impression en lisant tous les entretiens, les interviews, non?
Bah, en fait, le cabaret contemporain était... Moi, j'avais envie au tout début de réunir musique savante, musique populaire, en fait. Et effectivement, de fil en aiguille, on est arrivé à ce groupe-là, cabaret contemporain, qui maintenant tourne depuis 3-4 ans un peu partout. Et l'idée vraiment centrale, c'est comment avec des instruments, en les préparant, en contournant leur son, on se rapproche, on mixe un peu les musiques.
Qu'est-ce que ce terme de cabaret venait défendre ? Quelle tradition du cabaret ? Il y avait quoi derrière ça ?
Il y avait justement un petit jeu de mots, cabaret contemporain. Cabaret appelle plutôt l'imaginaire fête, populaire, etc. Et contemporain, aujourd'hui, en musique, on aime, et pas qu'en musique, ça touche tous les champs esthétiques, il y a vraiment des chapelles, les différences entre musique actuelle, musique contemporaine. Contemporain est toujours un truc très intello qui est arrivé derrière, alors qu'en réalité, c'est la musique d'aujourd'hui. C'est un petit peu un pied de nez.
Vous êtes producteur, ça ne vous empêche pas peut-être d'être musicien ? Vous aviez une formation ? Pour vous préoccuper de ces questions de musique savante et de musique populaire ?
Moi, je suis vraiment mélomane. C'est-à-dire que j'adore la musique, c'est tout. Voilà. Je ne suis pas instrumentiste, musicien, je ne sais pas.
Et alors, justement, tout de suite, on va écouter le cabaret contemporain avec Aérodynamique, qui est une reprise et une réinterprétation d'un titre, justement, de Kraftwerk de 2012, assez récent. Alors, à la guitare, alors au piano, on a Fabrice Surat, Gianni Cacerato à la guitare, Julien Loutely à la batterie, Ronan Courty et Simon Drapier à la contrebasse, et bien sûr, la chanteuse suédoise Linda Ola, cabaret contemporain. C'est à vous. Thank you.
Soyeul et Tiknik aérodynamique. Condition et physique aérodynamique. Position et tactique aérodynamique.
Ah, je suis toujours pressée d'applaudir. Le son n'était pas fini.
C'était un peu trop, c'est vrai, ça a été terrible. Alors, c'était donc Cabaret Contemporain avec Aérodynamique. Nous allons avoir, je crois, Simon Drapier, Ronan Courty qui vont nous rejoindre en plateau. Et donc, le temps qu'il le fasse, je vous donne quelques dates. Demain, le Cabaret Contemporain et Linda Ola seront au Tandem Scène Nationale à Arras pour jouer leur hommage à Moondog. Mercredi, ils seront à Paris au Badaboum avec le projet Terry Riley Revisited. Et le 23 mai à Saint-Brieuc avec Kraftwerk, L'Homme Machine au festival Art Rock. Alors,
ce que l'on vient de voir, parce qu'on entend, mais on vient de voir, donc on va dire un peu pour nos auditeurs qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire on a vu des instruments préparés. Comment vous avez préparé les contrebasses et même la guitare?
Alors bon, il y a quelques secrets de préparation, évidemment.
Préparer, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire ajouter des objets extérieurs.
Préparer, c'est oui, faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas nécessairement l'instrument qui produit le son. Il y a un but évidemment sonore, puis il y a un but aussi dans la construction de la musique, d'être à l'endroit où on nous attend pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis contrebassiste que je dois faire que la basse. Hein. Et donc là, spécifiquement comme préparation,
la contrebasse par exemple.
Moi, mon créneau, c'est plutôt les pinces à linge. Hein. Alors j'ai beaucoup de mal en ce moment à en trouver des de qualité, hein, parce que
tout fout le camp.
Voilà.
Les ressorts sont devenus mous.
C'est ça, c'est les terrible. Ressorts sont trop mous. et puis il y a aussi de la gélatine. Alors la gélatine, c'est ce qu'on met sur des spots dans les, pour faire de la lumière rouge. Hein. L'origine, c'est une ampoule blanche et puis on rajoute un truc en plastique qui fait une lumière rouge. Voilà, il y a qu'est-ce qu'il y a eu ? Bah, il y a eu de l'archet. Alors, la guitare, elle est couchée.
Elle est à plat, hein, elle est horizontale.
Donc, il y a plusieurs façons d'en jouer. Il y a de l'archet, il y a des tiges filetées. Alors, on va beaucoup faire des courses dans des magasins de bricolage. Hein. Donc, des fois, ouais, on achète des trucs.
Les rois de Castorama et du reste.
Plus des BHV, fois, ça marche.
BHV, oui, BHV, c'est côté chic.
Des fois, on se dit, tiens, je vais acheter ça, ça va faire un truc super. Et puis, ça marche pas du tout. Alors, on le file à son copain batteur en disant, tiens, ça se trouve, tu pourras peut-être en faire quelque chose.
Zoé.
Alors, c'est justement John Cage en 38 qui avait développé ce concept. Mais c'était que pour le piano à l'époque. Piano préparé, donc, qui consistait à faire exactement ce que vous faites, mettre des objets. En quoi est-ce que John Cage fonctionne pour comme une référence pour vous?
Je ne sais pas si c'est une référence parce que le piano préparé qu'utilise Fabrice Surat est très différent du piano préparé de John Cage. Moi, j'ai eu la chance de préparer un piano. C'est très compliqué. Hein. Il y a des mesures en pouces, c'est des choses très précises avec des rivets et tout ça. Et quand le pianiste qui jouait les pièces est arrivé, il a tout changé. Il cherchait quelque chose qui sonnait plutôt que d'être dans la règle de John Cage. C'est plutôt sur la musique de John Cage qu'on a voilà qu'on ressent des choses. C'est pas nécessairement de là qu'est venue l'idée de préparer les instruments. Nous, on avait vraiment envie de ce que je vous disais sur la hiérarchie aussi dans le groupe, et puis de faire une musique comment dire qui pourrait sonner presque électronique ou qu'on pourrait pas identifier. Et puis bon, il y a l'intérêt de nous voir aussi. De nous voir comment on fabrique nos sons avec nos petites mains, quoi.
Ouais,
puis,
côté complètement artisanal pour une musique plutôt savante, en fait.
Voilà, en l'occurrence, la musique de Kraftwerk, c'était une évidence de traiter ça, puisque c'est une musique qui est entièrement synthétique, électronique.
Vous-même, vous allez la traiter sur un plan acoustique.
Oui, c'est
oui,
ça.
Oui, nous, on joue 100% acoustique, en fait, sur ce
Simon
projet.
Drapier.
Et c'est vrai que parfois on oppose un peu de façon stupide, je pense, la musique électronique et la musique acoustique. Et nous, en fait, on a grandi avec tout ça et on a trouvé énormément de poésie dans la musique de Kraftwerk et dans les machines. Et du coup, ça nous paraissait plutôt rigolo, en fait, de pouvoir rejouer cette musique-là avec nos moyens là, qu'on a développés depuis maintenant quelques années. Quoi.
Et ça va même contaminer le lieu de la scène.
Oui, puisque vous produisez dans différents lieux, hein, c'est toujours dans cette logique-là, des scènes nationales, donc à Arras par exemple demain, mais aussi des boîtes de nuit, parfois des lieux publics, des rues, des gares. Puis d'ailleurs, depuis 2012, vous présentez un projet qui s'appelle Wet Sound, pour ceux qui ne parleraient pas anglais, le son mouillé. C'est un concert-performance que vous jouez dans des piscines. Donc les spectateurs, ils sont en maillot de bain, ils peuvent être soit hors de l'eau et vous écoutez donc debout normalement, soit vous écoutez dans l'eau, avec des haut-parleurs qui sont dans l'eau. Alors j'ai lu dans une interview que cette performance avait beaucoup changé votre rapport au public. Qu'est-ce qu'il en est ?
Simon Drapier.
C'est surtout que quand on joue dans une piscine et qu'on a un public en train de nager en maillot de bain très loin de nous, en fait, c'est assez difficile de communiquer avec lui, en fait.
Mais ils peuvent pas applaudir parce qu'ils se noient.
Sinon, ils se noient.
C'est la seule chose qui a changé votre rapport au public.
Bon, disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce programme qui n'est pas... nous, on est surtout sur notre musique originale et ce programme, il y a un vrai intérêt technique qui est le son qui est diffusé sous l'eau. Mais nous, quelque part, avec le concept, c'est pas évident parce que les instruments acoustiques, comme une contrebasse en piscine, ça souffre un peu.
Mais l'idée est vraiment d'aller dans des lieux de l'espace public
et de
sortir un peu. Par exemple, là, on l'a fait à Évry, dans le cadre de la saison de la scène nationale d'Évry. L'intérêt, c'est que devant le même public, dans son résidence en Essonne, plus largement, mais ça nous permet de retrouver un public qu'on peut voir dans une salle avec cette relation frontale dont on parlait et qui, effectivement, nous... Les musiciens et moi, au niveau de la production, nous gonflent un peu. C'est vrai qu'il y a une relation, on se sent loin des gens. Et là, il y avait l'envie d'aller avec eux. C'est ça aussi. Il n'y a pas que la partie technique musique, il y a aussi l'envie de la rencontre. Quoi.
Il y a des souvenirs de concerts autres hein, que vous ayez produits, des concerts auxquels vous avez assisté comme spectateur et qui ont pu être fondateurs pour ce que vous cherchez justement et pour ce que vous développez depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des concerts mythiques auxquels vous avez assisté et qui ont pu comme ça fonctionner comme modèle ?
Comme ça, ça me vient
pas. Ouais, non plus, je pense pas que je pourrais donner un concert.
Skoda Nibio, ouais, c'est vrai, un contrebassiste qui avait développé des techniques particulières sur la contrebasse, et notamment une transcription de la sequenza de Berio pour violoncelle, que joue d'ailleurs admirablement bien Simon à la contrebasse. Moi, je viens plutôt du jazz, donc c'est tout ce que je sais pas faire.
Et moi, je dirais que c'est né de la frustration, justement. Que justement, en étant assis, en pouvant pas se faire plaisir et bouger, je me suis dit, il faut le faire, quoi.
Très bien. Eh bien, comme à chaque
invité, on nous demande cette saison, on vous a demandé d'apporter un son et vous avez choisi un son que nous allons écouter tout de suite.
Alors, court, qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'était juste un petit clin d'œil, en fait.
C'est Simon Drapier.
Le morceau qu'on vient de jouer là, on l'a reformaté pour qu'il rentre dans le cadre de l'émission, qui est une émission qui parle de théâtre, de musique et de plein de choses. Mais en fait, c'est un morceau qui dure en général entre 8, 9, 10 minutes, selon l'énergie dans laquelle on est, selon notre rapport au public. Et du coup, cette musique, on peut l'écouter. Elle a été diffusée lundi dernier sur France Musique. C'était le jingle de France Musique, en fait.
Qu'on vient d'écouter, c'est ça, ouais.
Voilà. Et c'était simplement un petit clin d'œil parce qu'on a appris dernièrement que l'enregistrement de concert était plus trop à la mode. Et nous, on trouve ça plutôt bien de pouvoir écouter de la musique comme on a fait là, dans le cadre d'une émission qui parle de plein de choses. Et puis pour ceux qui veulent s'intéresser de façon plus précise à la musique, de pouvoir l'écouter en entier. Et grâce aux gens qui sont venus enregistrer un beau concert qu'on avait fait au mois de janvier à Nanterre, on peut écouter ça sur dans son intégralité.
Ouais, avec des outils incroyables, parce qu'il faut voir ces camions qui sont des studios d'enregistrement. C'est quand même impressionnant.
Une déclaration très corporate. On vous remercie.
Ces voix nous manquent. Les gens se lavent. Il m'a semblé voir des passages s'éclairer. Les gens se lavent.
C'est un petit peu un pied de nez.
Merci à nos invités. Denis Guénoun, nos corps prochains, c'est au Théâtre de Chaillot à Paris jusqu'à mercredi. Le cabaret contemporain Kraftwerk, l'homme-machine en collaboration avec Linda Ola. C'est le 23 mai à Saint-Brieuc, le 19 juin à Naples, le 21 à Milan à l'occasion de l'exposition universelle. Et je signale que votre dernier album, Terry Riley Cover, est disponible sous le label Versatile Records. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Moi, et je pense que vous êtes tous dans ce cas-là, je suis devenu journaliste, pas pour faire de la politique, mais pour faire du journalisme.
Demain, une émission Sciences Po, Le Monde, Libération avec la journaliste Raphaël Baquet qui a signé le fameux Ritchie. À ses côtés, l'écrivain Mathieu Lindon. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Zoé Sfez, Aïssatou Endoï, Elsa Béranger, Journal de la Culture, Adrien Nazelli, à la prise de son Jean-Guilain Meige et Ariane Herbé, et à la réalisation Lise Combe.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.